Ici McLean.
Qu'est-ce que tu fous, Rogers?
Comment tu sais où je suis?
Bah, ça fait 4 ans que nos voitures ont toutes un GPS, tu te rappelles plus?
La curiosité est un vilain défaut.
Les fédéraux nous demandent un service. Ils font un gros ratissage. Ils veulent qu'on leur amène un hacker qui est à Camden.
RTL.
Tu vas le chercher et tu le ramènes au bâtiment Hoover à Washington. Ils ont une espèce d'intrusion informatique ce matin.
Sidonie Bonnec, Thomas Huck.
Pourquoi vous êtes là?
On sait rien, une histoire d'ordinateur. Les fédéraux de Washington vous attendent, donc on est parti.
La cybercriminalité au cœur de ce film Die Hard 4 avec Bruce Willis. Et nous, on va aussi traiter de la cybercriminalité, mais c'est dans la curiosité 1253. Voilà, c'est une autre, c'est la suite de la série de notre émission. Pierre Penalba, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes commandant de police, chef d'unité de lutte contre la cybercriminalité à la PJ de Nice. Petite question simple pour mettre tout le monde au même niveau. C'est quoi la cybercriminalité?
La cybercriminalité, c'est toutes les infractions qui sont commises contre des matériels informatiques, des matériels connectés, ou avec des matériels informatiques. Donc ça recouvre énormément d'infractions.
Donc ça, c'est nos ordinateurs à nous, à
ordinateurs,
la maison.
Vol de données, nos... utilisation des ordinateurs pour envoyer des mails, les photos, les films, tout ce qui peut être fait ou utilisé au niveau de matériel informatique.
Chez les particuliers et dans les entreprises aussi.
Particuliers, entreprises. Les entreprises sont plus vulnérables parce qu'elles ont des problématiques financières importantes, des bases de données. Mmh. Et les particuliers sont vulnérables aussi parce qu'ils ont du mal à se protéger et à connaître les techniques et les bonnes pratiques.
Alors moi j'ai reçu il n'y a pas longtemps un message à l'air, dites attention à un phishing. C'est quoi un phishing?
Alors le phishing, c'est un mail qu'on reçoit qui contient soit un lien vers lequel on va aller, qui peut soit infecter votre machine, soit vous pousser à rentrer vos coordonnées bancaires. Les phishing sont devenus de plus en plus élaborés. Faut plus se dire, dans un phishing, c'est mal écrit, donc je sais tout de suite que ça vient d'un pays étranger.
Ça peut être très bien écrit.
Il commence à être très bien écrit et il commence à être vraiment bien fait.
Un exemple précis.
Un exemple, vous recevez actuellement des mails qui viennent des impôts, qui vous disent que vous avez trop payé d'impôts. Donc pour une fois, on va vous rembourser, vous avez un lien, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur une page qui ressemble à une page des impôts, et on vous demande, pour vérifier que c'est bien vous, de rentrer vos coordonnées bancaires. Sauf que c'est pas un remboursement que vous allez avoir, mais des débits.
Bon, bienvenue, bonne année. Comment on peut faire pour se rendre compte que là, on est face à un mail dangereux, à un phishing?
Déjà, il faut le principe de base, je le dis à tout le monde systématiquement, mais on ne clique pas et on ne va pas sur un lien qui est contenu dans un mail. Une administration va vous envoyer un mail, une entreprise va vous envoyer un mail. S'il y a un lien dedans, je n'y vais pas. Je passe par le site officiel, par exemple des impôts, je vais sur le site officiel des impôts.
On fait la démarche de taper l'adresse.
Je fais la démarche de taper l'adresse qui est directement dans le bandeau et je vais dessus pour voir ce qu'il en est. Je ne fais pas confiance. Ce n'est pas parce qu'on voit une information qu'elle est réelle. Il faut vraiment faire attention à ça. Il faut avoir, vous recevriez dans votre boîte aux lettres demain un papier en vous disant « Vous allez être remboursé si vous m'envoyez vos coordonnées bancaires. » Vous allez répondre, vous allez faire. Non.
Évidemment.
Mais sur Internet, les gens le font parce qu'ils se disent « Ah, ça doit être logique, je vais payer. » Ou enfin, je vais gagner de l'argent. Mais vous avez la même chose avec...
Ils envoient leurs coordonnées.
Ils envoient leurs coordonnées. Mais si vous cliquez sur un de ces liens, il y a aussi le problème de risquer d'être infecté. Si vous êtes infecté par un virus...
Un
troyen, ils vont pouvoir récupérer toutes vos données personnelles. Ça veut dire, les données personnelles, ça va être les cartes d'identité que vous avez scannées pour en faire vos voyages, préparer vos passeports.
Les mots de passe qu'on met dans nos
ordis,
parfois.
Les mots de passe que
parfois,
vous mettez dans vos ordis. Donc, ils vont avoir vos coordonnées bancaires, ce qui fait qu'ils vont pouvoir accéder à votre vie complète.
Et ils en font quoi de ces données personnelles après? Ces hackers, ces pirates ou ces
informatiques? Alors la première chose qu'ils font, c'est utiliser ces données pour faire des finances, enfin des achats et des dépenses. Donc ça se chiffre très vite en plusieurs milliers d'euros. En France, on a l'avantage d'avoir des organismes bancaires qui sont obligés de vous rembourser quand vous faites arnaquer de cette façon-là.
Et comment on prouve s'ils ont tous nos numéros de carte bancaire? Et donc, ils utilisent forcément notre nom, Pierre Penalba. Comment on prouve que ce n'est pas nous qui avons acheté ce magnifique canapé à 6 000 euros?
Il y a une première vérification qui est faite par les banques, la plupart du temps. Et la vérification, elle est assez simple. Ils vérifient où vous êtes et à quel endroit sont faits les achats. Si les achats ont été faits au même endroit que dans votre ville, ou même dans votre quartier, là où vous allez habituellement ou pas loin, ça paraît logique que ce soit suspect. Par contre, la plupart du temps, les achats sont faits dans d'autres pays. Nous, on a eu des escroqueries assez fréquemment. Les gens se font voler leurs données bancaires et vous avez des achats en Chine, aux États-Unis. Mais au même moment, vous avez 50 achats parce que la carte bancaire, enfin les données bancaires, sont revendues à des hackers qui les achètent et qui s'en servent.
Et comment vous et votre unité, Pierre Penalba, puisque vous êtes commandant de police et chef d'unité de lutte contre la cybercriminalité à la PJ de Nice, comment vous luttez contre ces escrocs numériques ?
Alors nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de regrouper le type d'escroquerie par genre. C'est-à-dire, si on a un escroc qui a réussi à rentrer sur 10 000 boîtes aux lettres, 10 000 boîtes mails, il a réussi à récupérer des données, on va essayer de constituer un fichier de victime. Avec ce fichier de victime, on va essayer d'avoir suffisamment d'éléments pour monter une opération et identifier la personne. Le problème, c'est que s'il n'est pas en Europe, en France ou en Europe, on aura énormément de mal à faire en sorte que les polices des pays étrangers coopèrent avec nous. Ça dépend des pays, hein, mais il y a des pays dans lesquels c'est assez balbutiant, donc c'est difficile de coopérer. Par exemple, tous les pays du Maghreb et les pays en Afrique, c'est assez difficile d'obtenir une coopération efficace.
Alors qu'en Europe, vous travaillez ensemble ?
En Europe, on travaille sous la supervision d'Europol, et ça marche très bien au niveau... Bon, il y a toujours des délais, mais ça marche vraiment bien.
Est-ce que c'est une énigme ?
Non. L'énigma a fini par être craqué, ça c'est son successeur, la Cigaba, jamais craqué.
La curiosité est un vilain défaut.
Vous êtes qui ? Vous pourriez être un ennemi ?
Oh pardon, Snowden, Edward Snowden.
Hank Forrester.
Sur RTL.
Surtout, dites-moi si j'abuse, mais derrière, c'est pas un Crayon ?
Tout à fait. Le premier super calculateur, la capacité d'un téléphone portable d'aujourd'hui.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Quel est votre péché mignon ?
Les ordinateurs.
Dans ce cas, monsieur Snowden... Vous ne vous êtes pas trompé d'adresse.
Extrait du film Snowden, signé Oliver Stone, c'était en 2016. Et dans la curiosité, on plonge au cœur de la cybercriminalité avec notre invité Pierre Penalba. Vous êtes commandant de police, chef d'unité de lutte contre la cybercriminalité, justement, à la PJ de Nice. Alors, on continue, grâce à vous, de récupérer comme ça quelques bons conseils pour éviter de se faire avoir. Qu'est-ce qu'on ne doit absolument pas laisser, entre guillemets, traîner sur Internet ?
Alors, on ne doit pas laisser traîner des documents d'identité scannés. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent leurs documents d'identité, envoient leur passeport, leur carte d'identité, des relevés bancaires, des choses comme ça, pour échanger, pour réserver des voyages. Mmh. À partir du moment où vous les mettez en ligne, il faut savoir que ça peut être récupéré. Quelqu'un qui va récupérer une carte d'identité, qui va récupérer vos coordonnées bancaires, va pouvoir faire un prêt bancaire à votre nom, va pouvoir ouvrir une ligne de crédit quelque part, et l'organisme ne viendra pas voir le pirate, il viendra vous voir vous.
Ouais. Mais ça veut dire que, par exemple, un IBAN ou un RIB, un relevé d'identité bancaire, il ne faut pas l'envoyer par
Alors,
mail ?
Un IBAN, un RIB, c'est une donnée bancaire seule qui n'est pas suffisante pour établir un crédit.
D'accord.
Il
ne
faut pas qu'il y ait la pièce d'identité avec.
Ah oui.
Si la personne a la pièce d'identité avec, à ce moment-là, il y a un risque vraiment important que soit lui-même, le hacker ou le pirate, utilise ces données, soit il les revende, parce que vous avez des marchés sur le net où on vous propose des kits complets avec des identités de personnes et des propositions pour faire des crédits.
Et ça, on les trouve sur le dark web, c'est ce qu'on appelle...
Pas obligatoirement, il y a le dark web, mais il y a aussi des sites de hackers qui permettent de faire ça.
Pierre Penalba, alors, vous nous avez dit qu'il ne fallait pas laisser ces données, donc ces données-là, les mettre sur Internet, et pas les laisser sur le bureau de son ordinateur aussi, c'est ça ?
Pas les laisser dans son ordinateur du tout, même.
Mais on les met où ?
Il faut utiliser...
On ne va pas scanner tout le temps...
C'est sur le bureau papier, alors.
Il faut utiliser ce qu'on appelle des conteneurs cryptés. C'est des conteneurs qui permettent de chiffrer vos données. C'est-à-dire, il suffit simplement d'acheter. Il y a des petits logiciels qui coûtent vraiment pas cher, qui vous permettent de crypter des zones, des répertoires. Et il suffit de stocker ces données à l'intérieur. Moi, dans ma machine, par exemple, j'ai deux conteneurs cryptés dans lesquels j'ai mes données personnelles et les données importantes de mon travail. Et ces données sont cryptées, ce qui fait qu'on ne peut pas remonter dessus.
Mais franchement, je saurais même pas où aller acheter ça ou comment faire.
Sur le net, vous trouvez facilement.
Mais c'est pour tout le monde ou il faut vraiment être un geek.
C'est vraiment hyper simple d'utilisation. Vous avez par exemple TrueCrypt, qui est un logiciel de cryptage. Vous l'installez et il va vous permettre de crypter un dossier. Et dans ce dossier, chaque fois que vous mettez quelque chose dedans, c'est crypté, c'est enregistré. Mais vous ne pouvez y accéder qu'avec un mot de passe.
Ouais. Super
Donc
conseil.
L'avantage, c'est qu'il ne peut pas être piratable.
Ah, génial. Et vous faites ça, vous, à votre bureau, parce que vous pouvez être victime de hackers, vous aussi, alors que c'est votre job de lutter contre
la cybercriminalité. On est connecté sur des réseaux de cybercriminels.
Ouais.
Donc à partir du moment où on est connecté sur des réseaux de cybercriminels, les cybercriminels ont accès à nous. Obligatoirement.
On va raconter une autre histoire de cybercriminalité, une escroquerie dont on pourrait être victime Nous, Pierre Penalba, c'est par exemple une offre d'emploi. Tout commence par une annonce, ou plutôt une proposition d'emploi.
Une bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle. C'est ça ? On vous propose un emploi, on nous propose un emploi.
On vous propose un emploi, de, par exemple, à 3000 euros par mois,
ouais.
En vous disant que vous allez être commercial pour nous. Et le boulot, ça va être... Alors, d'abord pour le boulot, l'avantage de ces escrocs, c'est qu'ils vont vous dire on est une société sérieuse. Ils prennent l'identité d'une société qui existe réellement dans votre région. Donc vous avez une société qui existe réellement.
Ouais.
Et une fois qu'ils ont pris cette identité, c'est très simple, hein, vous allez sur le registre du commerce, vous allez sur les sites internet qui parlent des sociétés, vous récupérez toutes les données, vous avez même le nom du dirigeant. Une fois que vous avez fait ça, ils établissent des contrats au nom de cette société, complètement bidon évidemment, et ils vous l'envoient, et ils vous demandent en retour que vous leur envoyez vos papiers d'identité pour prouver que vous êtes bien vous, et des coordonnées bancaires pour vous faire les virements. Donc ils font d'une pierre deux coups, ils vont vous escroquer et de l'autre côté ils récupèrent vos données.
Mais ça veut dire que les gens qui sont victimes de cette escroquerie, ils travaillent vraiment pendant quelques semaines.
Ils travaillent avant de se rendre compte qu'ils ont été escroqués. Voire 2-3 mois jusqu'à ce que l'affaire tombe à l'eau, parce que c'est jamais des dossiers qui durent longtemps. Une escroquerie qui est menée comme ça, ça va consister en général à recevoir des paquets à la maison ou des virements et à les renvoyer. Et au bout d'un moment, obligatoirement, il y a des plaintes qui vont finir par arriver à être traitées et ça va arriver chez ce qu'on appelle la mule.
Mais la mule, c'est quoi la mule ?
Le principe de ces escroqueries de travail, on appelle ça les mules, c'est utiliser des mules. Les escrocs qui sont basés dans des pays étrangers cherchent en France, eux, ils nous appellent comme ça, mais c'est des mules. Les mules, pour eux, c'est les personnes qui vont se faire avoir pour eux,
d'accord,
mais qui vont leur rapporter l'argent.
J'ai compris. Mais là, c'est du bon sens, le conseil à donner à nos auditeurs. C'est-à-dire, on ne va pas accepter une offre d'emploi sans aller au moins une fois rencontrer les
C'est des offres d'emploi en ligne.
Ouais,
et c'est très... Ça, je peux vous montrer des kits complets, c'est vraiment très sérieux, c'est beau, ça ressemble à des vraies offres d'emploi. Et si vous appelez sur les numéros de téléphone qui sont fournis, qui sont des numéros de fixe, vous avez l'impression d'appeler dans une entreprise française, mais en fait, vous appelez en Afrique ou dans d'autres pays.
Et il y a quelqu'un qui vous répond.
Et il y a quelqu'un qui vous répond
en bon français.
Non, il parle très bien français, tout va bien. Vous avez vraiment l'impression d'avoir quelqu'un en face de vous.
Bon, on sent qu'on a bien besoin de vous, la police de l'Internet, pour lutter contre la cybercriminalité. Pierre Penalba, vous êtes combien de policiers en France à travailler à la lutte contre la cybercriminalité ?
On est plus de 800 qui ont déjà été formés, qui sont ICC, ce qu'on appelle investigateurs en cybercriminalité.
Vous êtes débordés ?
Oui.
Vous avez énormément de boulot ?
Il y a énormément de travail. Le problème, c'est que la criminalité, dans ce domaine-là, est un phénomène qui galope, qui explose en permanence. Vous avez de plus en plus de gens de criminels qui se rendent compte que c'est facile de faire de l'argent avec ça. Je donnais un exemple ce matin. Il y a deux jeunes hackers qui ont décidé de se faire de l'argent avec un mail d'extorsion en disant « Vous avez eu des relations sexuelles, je vous ai filmé. » Ils ont envoyé ça à 20 millions de personnes qui n'avaient rien fait.
Oui.
Mais ces 20 millions de personnes ont reçu les mails. Il y en a 28 000 qui ont signalé le truc et il y en a 2 000 qui ont payé.
Il y avait 2 000 infidèles.
Et qui ont payé. Enfin, 2 000 qui ont payé et qui ont déposé plainte.
Oui.
Mais dans les 2 000 qui ont payé et qui ont déposé plainte, ça a permis à l'enquête de démarrer et d'être traitée jusqu'au bout. Donc, Locklit a réussi à interpeller les gens. Mais ça a quand même rapporté plus d'un million d'euros à ces criminels.
Oh, c'est dingue. Mais alors là, il y a aussi un conseil qui est assez simple. Sur son ordinateur, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'être filmé ou même avec son téléphone à son insu ?
On doit mettre une gommette, on doit boucher la caméra, on doit empêcher le fonctionnement de cette caméra. Ils vendent sur le net des petites pinces à mettre sur les ordinateurs pour éviter justement que la caméra soit visible facilement.
Oui, quand vous avez besoin,
nous on a des gommettes, on enlève la gommette au moment où on s'en sert. Voilà.
Et sur les téléphones aussi ?
Sur les téléphones, vous mettez des gommettes ou alors une pince, mais la plupart du temps, moi, le conseil le plus simple, c'est le téléphone, il est rangé quelque part, et quand je veux m'en servir pour une activité vraiment précise, je le prends et j'active tout et je vérifie tout. Je ne me promène pas toujours avec mon téléphone à la main, Voilà. Hein, après, c'est une question de bon sens, savoir que le téléphone, s'il a été infecté, il peut servir de caméra en permanence.
Ouais. Vous publiez Cybercrime, Pierre Penalba, c'est aux éditions Albin Michel. Ça nous touche, nous, ça peut aussi toucher des institutions, par exemple des hôpitaux. Il y a eu plusieurs histoires d'hôpitaux victimes de cybercriminalité.
Oui, alors là, c'est des groupes criminels qui sont très bien organisés et qui pénètrent dans les hôpitaux au niveau des serveurs, qui ont des techniques vraiment... c'est vraiment du travail de haut niveau pour ça, et ils mettent dedans des cryptovirus. Le principe, c'est d'empêcher le fonctionnement de l'hôpital ou de l'organisme, et une fois que c'est bloqué, ils demandent une rançon. Qui va être 3 000, 10 000, 20 000, 100 000 euros. Et en fonction du paiement de cette rançon, ils vont vous donner la clé de décryptage qui va permettre de fonctionner. Mais nous, systématiquement, on dit qu'il ne faut jamais céder à ce genre de menaces, à ce genre de chantage. Et de toute façon, chaque fois qu'il y a un hôpital ou chaque fois qu'il y a une entité importante qui est attaquée, l'Oclite est saisie. Et il y a un parquet à Paris, le parquet F1, qui est spécialisé là-dedans avec des magistrats qui sont hyper compétents, des cyber-magistrats qui sont comme nous et qui sont vraiment extrêmement doués dans le domaine et qui travaillent sur ça. Eux, ils savent quand on vous parle de Darknet, ils savent quand on vous parle de fichiers cachés, de skimming, de hacking, ils savent de quoi on parle. Donc ça, c'est agréable de travailler avec eux d'ailleurs. Mais c'est des services qui sont saisis systématiquement.
J'aimerais que vous m'accordiez 5 minutes pour vous montrer quelque chose.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ces ordinateurs nous indiquent à chaque instant la situation mondiale.
On est bien entre curieux.
Le Whopper pense la Troisième Guerre mondiale en permanence. Il a pour fonction d'inventer tous les jeux de guerre possibles en utilisant toutes les informations sur les cas de figure mondiaux.
Sur RTL.
Si je vous comprends bien, cet engin d'$1 milliard est en définitive laissé à la merci d'hommes qui tournent une petite clé.
C'est exact, oui. Et dont le seul défaut est d'être humain.
Extrait du film War Games que vous pouvez revoir, il date de 1983 et c'est un peu, il est considéré comme le premier film sur le hacking et nous on enquête avec l'unité de lutte contre la cybercriminalité à la PJ de Nice et son commandant de police, Pierre Penalba. On enquête et on découvre les coulisses de votre métier et c'est passionnant parce qu'en fait ça nous touche de près puisqu'on est tous des victimes potentielles et parmi vos missions, il y a aussi la lutte contre la pédophilie. Comment vous traquez les pédophiles en puissance sur la toile?
Nous, on a une mission particulière, on traque en particulier les téléchargements. Il est extrêmement simple pour des gens qui ont des tendances à caractère pédopornographique de trouver des fichiers à caractère pédopornographique sur Internet. Donc, une fois qu'ils ont commencé à cliquer et à télécharger ces fichiers-là, nous, on a des logiciels de surveillance globaux sur toute la France qui nous avertissent en nous disant, voilà, à telle adresse IP, vous commencez à avoir des téléchargements en cours. Donc, il y en aura 1, 2, 10, 20.
Justement, à partir de combien de téléchargements vous commencez à suivre la personne de près?
Alors nous, on commence à suivre la personne à partir d'une cinquantaine de téléchargements, voire une centaine de téléchargements. Mais ce qui est un facteur vraiment déclenchant pour nous, c'est quand ça augmente. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui a téléchargé une fois des fichiers puis qui ne va pas recommencer après parce que pour lui c'est horrible, il les a effacés, etc. Mais quelqu'un qui commence à télécharger une fois des fichiers puis une deuxième et puis une troisième et qui a une sorte d'addiction qui se met en place, pour nous c'est un signal d'alerte immédiat et il faut y aller.
Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là?
Dans ces cas-là, on identifie l'adresse IP et on va interpeller la personne.
Il faut juste rappeler ce qu'est l'adresse IP.
L'adresse IP, c'est l'adresse qui est donnée à chaque internaute qui se connecte à partir d'une...
On en a tous une.
Quand vous vous connectez avec votre téléphone, vous en avez une. Quand vous vous connectez avec votre ordinateur, vous en avez une. Chacun a une adresse IP. Alors, il y a de légers problèmes avec les adresses IP en version V4, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais dans l'avenir, tout le monde aura une adresse IP V6, c'est-à-dire qu'elle sera individuelle quasiment.
D'accord. Et donc, vous avez repéré, ce pédophile qui vient de télécharger de plus en plus, un peu frénétiquement, on va dire ça comme ça, des photos ou des fichiers de pédopornographie. Donc, vous faites quoi? Vous allez l'interpeller tout de suite?
Ça dépend des situations. On fait toujours une enquête de voisinage, alors numérique d'abord, on vérifie le profil numérique des gens, et après on fait une enquête de voisinage pour savoir ce qu'il en est. On ne va pas tomber en cassant la porte de bon matin à 6h parce que vous avez téléchargé 10 fichiers. On vérifie. On fait une vérification parce qu'il nous est arrivé des fois de tomber sur des erreurs des opérateurs. On peut avoir une fausse identification, donc on fait très attention dans ce domaine.
Ouais. Et est-ce que vous ou vos hommes peuvent se faire passer pour une jeune fille, un jeune garçon qui serait, vous voyez, qui serait la cible, qui serait victime des pédophiles?
Alors, on a la possibilité de faire ce genre de choses-là, mais nous, dans notre unité, on ne peut pas, on n'est pas assez nombreux, et c'est plutôt une fonction qui est réservée à l'OCLIT ou à des services...
OCLIT, on n'a pas dit ce que c'était exactement.
C'est l'Office central de lutte contre la cybercriminalité.
D'accord.
Et un autre service qui est l'Office central de répression des victimes, des personnes, de protection des personnes, dont le rôle est de protéger justement tous les gens qui sont victimes d'atteintes sexuelles.
Donc vous alertez en quelque sorte, c'est ça? Vous faites la pré-enquête, que j'essaye de comprendre le partage des
tâches.
Alors
nous, ce qu'on fait, non, il y a deux choses. Il y en a qui enquêtent au niveau par exemple des réseaux, ils se font passer pour des pédophiles ou des victimes et ils essayent de rentrer en contact. Mais ça, c'est un boulot qui est extrêmement prenant au niveau de temps et qui vous avez besoin de mettre un fonctionnaire dessus pendant des jours, voire des semaines pour identifier un réseau ou un groupe de personnes. On ne peut pas se permettre de passer 3 mois dans mon groupe à 3 alors qu'on ne peut pas faire d'autres enquêtes. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va vérifier plutôt les téléchargements en cours. D'accord. Et on va interpeller les consommateurs. Et dans les consommateurs, on a aussi des producteurs. Récemment, on a interpellé un consommateur d'images pédopornographiques, mais ce gars-là avait violé 11 gamins et il avait diffusé les vidéos de ces 11 gamins. Donc, en fait, on avait un cercle vicieux, donc il téléchargeait, il redonnait, et c'est vraiment particulier. Hein,
Qu'est-ce qui risque en termes pénal les consommateurs de vidéos pédopornographiques ?
Alors, entre 3 et 5 ans de prison. Et des amendes assez conséquentes. Ça peut aller jusqu'à 7 ans de prison dans certains cas quand ils ont envoyé des photos de leur sexe.
Vous racontez d'ailleurs dans votre livre Cybercrime, Pierre Penalba, publié chez Albin Michel, une de ces affaires d'enquête pédophile. Vous repérez le comportement d'un internaute du coin, vous voyez qu'il a un comportement sans doute du téléchargement frénétique, et vous décidez de... vous dites que c'est un signalement... Il y a un moment, il y a un basculement, vous dites qu'il va passer, oui, sans doute passer à l'acte. Qu'est-ce qui se passe après ?
Nous, à partir du moment où on a décidé de l'interpeller, une fois qu'on a bien cerné la personne, on va chez lui. On rentre. Alors, on ne rentre pas obligatoirement en cassant la porte. Hein. On se présente en tant que policier. Ouais. La plupart du temps, un pédophile, quand il est pris à son... Enfin, qui sait qu'on arrive, il est en train de télécharger. On arrive au moment où il est en train de le faire. On en a trouvé en train de regarder les films. Si vous voulez, on rentre la porte, on est en plein flagrant délit. Il peut difficilement nier les faits. En général, ils sont relativement calmes. Il y en a d'autres qui nient. Hein. On en aura qui nieront, même si vous le trouvez en train de le faire. Il va nier d'un bout à l'autre. Mais en général, on arrive et on est en plein flagrant délit. C'est extrêmement rare qu'on soit pas en plein flagrant délit.
Dernière question générale. Est-ce que c'est une lutte de vitesse ? Vous voyez ce que je veux dire avec les cybercriminels en général, là, hein, les hackers. C'est-à-dire est-ce qu'ils inventent toujours des nouveaux moyens et vous êtes obligés, de suivre ?
On est obligé de suivre, on est obligé de se former en permanence, on est obligé d'inventer des techniques d'enquête. On a des canevas d'enquête, mais on est obligé d'inventer, de comprendre et de se tenir au courant de toutes les techniques. Vous avez les objets connectés maintenant, vous avez des VPN qui sont accessibles à n'importe qui, vous avez vraiment plein de techniques qui permettent de cacher son identité, le darknet qui devient vraiment accessible à n'importe quel internaute qui s'y intéresse un petit peu. Donc on est obligé de perfectionner nos techniques et nos techniques d'enquête. On n'est plus simplement sur ce qui se passe sur le trafic internet, on va aussi aller écouter les réseaux, regarder ce qui se passe et puis faire des enquêtes un peu plus approfondies.
Toute dernière question, Pierre Penalba, qu'est-ce que vous adorez dans votre métier ? Qu'est-ce qui vous passionne ?
Interpeller des pédophiles, j'adore ça, parce que j'ai l'impression que c'est un boulot où on protège les personnes. Moi, j'ai toujours eu des victimes qui sont venues nous remercier parce qu'on empêchait les gens de leur voler de l'argent, on empêchait les gens de les escroquer. Mais j'ai aussi eu des récompenses parce qu'il y a des victimes qui sont venues nous voir en disant merci que vous l'ayez arrêté. Et ça, c'est quelque chose qui est irremplaçable.
Merci beaucoup, Pierre Penalba. C'était passionnant de vous avoir au micro de la curiosité. Plein d'autres histoires sur votre métier passionnant. Le livre s'appelle Cybercrime, c'est aux éditions Albin Michel. Bon vent.
Merci.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.